Donc on termine avec Rasen, qui me regarde parce qu'il sait que j'ai mal prononcé. Azaïs, voilà, c'est à la française, donc qui est compositeur, qui est ethnomusicologue et qui a réalisé son post-doctorat ici à l'université de Corse. Hein, il est formé en sciences humaines à Tunis. Il a développé, il développe aujourd'hui à Corte un travail alliant la création et une réflexion scientifique sur les musiques du monde et sur les musiques populaires insulaires. D'ailleurs, il va nous parler de son île, de Carcana, voix de l'intime, mémoire des femmes insulaires. Quand l'amour se chante, la peine s'inscrit.
Cette communication interroge la manière dont l'expérience personnelle d'une chanteuse insulaire tunisienne, Annie Achour, se déploie dans un répertoire chanté qui conjugue intimité et mémoire collective. À partir de récits de vie et d'analyses approfondies d'un chant composé par Achour, à partir de son vécu de violence conjugale. Il s'agit de comprendre comment, dans le contexte singulier de l'archipel de Karkna, l'expression artistique devient à la fois un espace d'émancipation féminine, un vecteur de transmission intergénérationnelle et un mode de mise en récit de la souffrance. L'approche adoptée met en lumière le processus par lequel une expérience individuelle marquée par la douleur et la résilience s'approprie et réinvente les formes du chant collectif pour devenir création partagée. Il s'agira ainsi de montrer, selon l'analyse de Lorta Jacob, que, j'ouvre le guillemet, le chant n'existe que dans la mesure où il communique quelque chose de soi. Fin de la citation. Et d'analyser comment la chanteuse, en puisant dans l'héritage commun, parvient à réactiver et à transformer la mémoire collective à travers sa propre voix. Ce processus de réadaptation et d'appropriation du répertoire traditionnel permet à la fois l'expression de l'intime et l'inscription de la peine dans la mémoire des femmes insulaires, offrant ainsi à la communauté un espace de reconnaissance, de partage et de résistance culturelle. Contexte géographique et social et culturel de Karkana. L'archipel de Karkana, en arabe, en tunisien, on dit Karkana. Situé en Méditerranée face à la ville de Sfax, sur la côte orientale de la Tunisie, se compose de deux îles principales, Chargiou ou Gharbi, et de plusieurs îlots. Il est caractérisé par un climat semi-aride, de précipitations faibles, un terrain peu fertile et une rareté de l'eau douce. Les ressources naturelles sont limitées, la pêche artisanale et une agriculture de subsistance constituant les principales activités économiques. Cette précarité écologique et matérielle façonne fortement l'organisation sociale et le rôle genré. Dans ce contexte, la répartition des tâches est marquée. Les hommes s'occupent essentiellement des activités maritimes, tandis que les femmes prennent en charge les activités terrestres, à l'intérieur comme à l'extérieur du foyer. Elles assurent les travaux agricoles, l'élevage, la fabrication d'ustensiles à partir de ressources locales, la préparation des aliments et parfois la réparation des filets de pêche avec leurs maris. Cette organisation imposée par la nécessité de faire face à la rareté des ressources et la rudesse du climat forge une identité féminine résiliente, solidaire et créative. Le chant féminin occupe une place centrale dans la vie sociale. Pardon, j'ai oublié de vous montrer où se situe l'archipel. Voilà, par rapport à la carte de la Tunisie, en face de la ville de Sfax. Ça, c'est l'archipel. Le chant féminin occupe une place centrale dans la vie sociale de l'archipel, en particulier lors des fêtes et des cérémonies de mariage. Il accompagne et célèbre les étapes importantes de la vie des femmes, tout en constituant un espace d'expression, de transmission de la mémoire collective et de cohésion communautaire. Les chants sont transmis oralement, de génération en génération, souvent dans l'intimité du cercle familial ou lors de rassemblements féminins. La transmission de répertoire s'appuie d'abord sur l'imitation. Selon la perspective de Boé, le début de la citation, il est indubitable qu'il ne saurait y avoir d'expression dans les arts sans imitation. Fin de la citation. Les jeunes filles apprennent en écoutant et en reproduisant les chants de leur aîné dans un processus où la fidélité au modèle précède l'appropriation individuelle. Mais comme le souligne Lorte à Jacob, début de la citation, il ne saurait y avoir expression sans le désir clairement proclamé d'une appropriation du texte musical. Fin de la citation. À Karkna, chaque interprète s'approprie le chant, y insérant ses propres émotions, son vécu et sa manière de ressentir le monde. Parcours de Niyashur, de l'intime à la mémoire collective. Niyashur, originaire du village de l'Ataya, s'est initié au chant traditionnel dès l'enfance auprès de sa sœur aînée, Khadija. Ensemble, elles formaient un duo reconnu, animant les fêtes de mariage et assurant la transmission du répertoire féminin. Ça, c'est Nia et Khadija, sa sœur, en tenue traditionnelle kirkinienne. Animant les fêtes de mariage et assurant la transmission du répertoire féminin. Après le décès de Khadija en 2022, Nia a créé un groupe pour poursuivre cette tradition, continuer à célébrer à travers le chant les étapes de la vie des femmes à Parkna. Le parcours personnel de Nia illustre la condition féminine insulaire. Mariée une première fois, elle a divorcé, puis est restée 11 ans auprès de ses parents avant de choisir de se remarier pour avoir des enfants qui pourraient s'occuper d'elle à la vieillesse. Cette trajectoire, marquée par la résilience et l'autonomie, s'inscrit dans la réalité sociale des femmes de Karkna. Confrontées à la précarité et la nécessité d'assurer la survie du foyer dans un environnement difficile. L'analyse, maintenant on va utiliser l'analyse de la chanson choisie. L'analyse s'intéresse à un chant composé par Nia Ashour à partir de son expérience personnelle de la violence conjugale. Ce chant, tout en s'inscrivant dans les formes et les codes du répertoire collectif, porte la marque d'une expression singulière. Il illustre ce que Lorte à Jacob a décrit dans les traditions vocales qui nous occupent en particulier. Le chant n'existe que dans la mesure où il communique quelque chose de soi. C'est bien en cela qu'il émeut. Dans ce chant, Nia formule une série de souhaits adressés à Dieu, qui prennent la forme de malédictions poétiques visant son ex-mari. Loin d'un règlement de compte, ses paroles traduisent une douleur intime exprimée à travers le prisme d'une prière détournée. Voici les paroles traduites, c'est un peu long à lire, mais je vous passe le...
يا خاين بشكون بدلتيني خونك زمانك مير في الما خونتيني يا خاين بشكون
Je ne vais pas m'attarder parce que je manque de temps, donc je poursuis. Un autre aspect fondamental de ce chant réside dans son agencement mélodique et dans la manière dont Nia Ashour s'approprie une structure musicale préexistante. Le refrain de son chant est emprunté à une chanson populaire bien connue de la chanteuse Saliha. Cette reprise implique l'adoption d'un cadre mélodique et rythmique spécifique auquel Nia doit se conformer. Le respect de la métrique syllabique et poétique l'amène à conserver non seulement le phrasé, aussi l'accord grammatical féminin, hérité du texte original dans lequel la destinataire est une femme. Elle dit Badeltini au lieu de Badeltini. Bon, c'est en dialecte tunisien, je ne sais pas si vous comprenez un peu, mais en tunisien, on fait l'accord féminin, du coup, on dit Badeltini au lieu de Badeltini pour s'adresser à un homme. Et elle a gardé ça de la chanson initiale du refrain pour respecter la métrique. Ça, c'est la chanson de Salih. Comment ça passe? Alors que ça, c'est la chanson de... qui n'a pas de relation mélodique précise. Donc, elle a pris le refrain, les paroles du refrain, mais a changé un peu le mode. On dit « tba, maqa », je ne sais pas, on parle de musique modale ici. Donc, en tunisien, le mode, on l'appelle « tba ». Je traduis un peu ce qu'elle Badeldine, c'est « Tu m'as remplacé, ô traître, par qui tu m'as remplacé, que le destin te trahisse comme tu m'as trahi. Ce choix n'est pas anodin. En maintenant cette forme, Nia exprime son propos à son ex-mari en utilisant une voix poétique féminine qui transcende le cadre strict de la grammaire pour préserver l'intégrité musicale. Cela relève comment la contrainte poético-musicale influence directement l'expression verbale dans la création orale. Nia ne fait pas que reprendre une forme mélodique, elle en épouse les limites, les contours et les significations implicites. Elle compose ainsi ses couplets dans la continuité du refrain en s'inspirant de sa structure et en adaptant le contenu pour exprimer sa propre douleur. En faisant écouter la chanson à mes informateurs avertis, plusieurs d'entre eux ont spontanément fait référence à d'autres chansons du répertoire tunisien, également composées dans le Tbar Rastatville, et ont relevé des similitudes mélodiques intéressantes. Là, c'est la chanson de Cheikh Ifrit, interprétée par Mohamed Nouri. Je ne sais pas comment faire pour ça. Ça, c'est une autre chanson de Saliha, qui s'appelle Flegerzeli, à qui on a fait référence aussi pour l'inspiration ou je sais pas, l'emprunt de cette mélodie. Et la dernière, c'est fait partie du patrimoine kirkénien, chantée par une de nos informations. Ces rapprochements ne sont pas fortuits. Les structures mélodico-rythmiques propres au Tbar, au mode de Rastville, offrent un cava commun qui oriente naturellement la création de l'improvisation. Ainsi, la chanteuse ne s'éloigne pas de ses modèles. Il est probable qu'elle ait emprunté de manière spontanée et non réfléchie certaines phrases et formules mélodiques issues de ce répertoire, selon les mécanismes habituels de la réappropriation d'un patrimoine appris, mémorisé et transmis oralement. Ce processus illustre la manière dont la mémoire musicale collective façonne la création individuelle, permettant à la chanteuse de s'inscrire dans une continuité tout en exprimant sa propre voix. Enfin, dimension autobiographique et familiale du dernier couplet. Comme ça, on fait un peu d'analyse. Le dernier couplet du chant révèle une dimension encore plus intime et familiale. La chanteuse s'interroge sur l'amour qu'elle porte à ses enfants, évoque particulièrement sa fille Souad, la plus attachée à son père, et anticipe la tristesse et la colère de celle-ci face à la séparation. Elle se blâme pour la souffrance de sa fille, relatant que Souad a crié et pleuré l'annonce du divorce. Ce passage, composé alors qu'elle ramassait la halfa, c'est une plante qu'on utilise pour la fabrication d'ustensiles dans la forêt de palmiers, juste après la naissance de son fils, témoigne de la spontanéité et la profondeur émotionnelle de sa création. Assise seule en pleurs, elle a laissé surgir le chant comme une réponse à l'angoisse de devoir élever ses enfants dans la sollicitude, marquée par la trahison de son mari alors qu'elle était enceinte. Cette chanson s'inscrit dans une œuvre plus large. Nia Achour a composé d'autres chants pour exprimer différents épisodes de sa vie conjugale. L'une sur son premier mari, une autre intitulée Masar Alaya, elle a interprété ces chants lors de fêtes de mariage et les a enregistrés sur cassette, diffusant ainsi son expérience et sa parole auprès de la communauté féminine de Parna. En s'ancrant dans ce registre, Nia se compose pas seulement une plainte personnelle, elle convoque une mémoire chantée partagée. Ce faisant, elle transforme sa souffrance en une poésie de la perte et de la colère, mais aussi en une parole active destinée à circuler à se transmettre. Le chant devient ainsi un lien de réactivation du patrimoine, d'énonciation de l'intime, d'élaboration d'une mémoire collective, féminine. En puisant dans l'acquis collectif, Nia réactive et réinvente la mémoire commune à travers sa propre voix. Elle ne se contente pas de reproduire les chants entendus dans les fêtes et les veillées. Elle les adapte, les transforme et y insère son vécu, sa douleur, mais aussi sa volonté de surmonter l'épreuve. Cette démarche rejoint la réflexion de Lorta Jacob. Bien sûr, ce qui sort de leur bouche, c'est ce qu'elles ont en tête. Mais l'enquête montre qu'elles font entendre surtout des airs et des vers que d'autres ont chantés auparavant dans des conditions qui, elles, étaient pleinement admises en rechantant ainsi une femme seule. Le chant de Nia Rachoul devient ainsi un lieu de réappropriation de la douleur, de mise en récit de la souffrance, mais aussi un acte de résistance et de solidarité. En partageant son histoire à travers la musique, elle offre à la communauté féminine un espace de reconnaissance et de partage où l'intime rejoint le collectif. Et je conclue. Le chant féminin s'exerce souvent dans des espaces intimes ou semi-publics, loin des regards masculins. À travers l'exemple de Nia Rachoul, il apparaît que le chant ne se limite pas à un simple exutoire personnel, il devient un acte de mémoire, de résistance, de solidarité. En puisant dans le patrimoine collectif tout en l'adaptant à son vécu, la chanteuse inscrit sa douleur et sa parole dans une tradition vivante, capable de transformer l'intime en mémoire partagée. Ce processus révèle la force du chant comme espace de reconnaissance et de transmission, où la voix des femmes, souvent confiée à la sphère privée, acquiert une portée sociale et symbolique. Voilà, merci.